Et encore une fois, il me semble que la conscience chrétienne a très bien compris. Alors vous comprenez, lorsque ces occidentaux disent qu'ils font vraiment de la charité en envoyant des vivres, des armes au Biafra, il ne faut pas nous raconter des ch'touilles de ce genre. Hein. Ils sont gênés dans leur conscience morale, ils ont des complexes de culpabilité, et ils essayent de mettre un petit peu de justice dans cette injustice monumentale qui se fait là-bas et au Moyen-Orient. J'étais très frappé par la disqualification de la conscience morale occidentale, surtout de gauche, qui est à sens unique. Hein. Il y a des critères idéologiques pour savoir qui sont les victimes à sauver. Hein. Alors comme le Biafra, ça gêne la politique marxiste, alors le Biafra n'a pas droit à la même générosité que par exemple le Sud-Vietnam. Le fait qu'il y ait des critères idéologiques à la charité montre bien que les dieux sont pipés. Alors il y a quand même d'authentiques actes de charité, et pour le Vietnam, et pour la Corée du Sud, mais pour le Biafra. Mais à condition que ce soit un sacrifice d'expiation. Ce qui nous inquiète énormément, c'est de nouveau cette coalition d'hostilité vis-à-vis de la part de la conscience chrétienne, de la conscience marxiste et de la conscience musulmane par rapport à Israël. D'une part, on exige le critère de moralité absolue des juifs seulement, et d'autre part, la morale est violemment, systématiquement violée contre eux. Ouais. Quand on voit dans les journaux hier qu'il faut envoyer 60 prisonniers égyptiens pour récupérer deux pilotes, ou qu'il faut envoyer 13 prisonniers syriens pour récupérer deux passagers civils, alors où est la morale dans cette histoire? Et le monde entier s'habitue sans rire à ces énormités. Un juif vaut 30 égyptiens. Alors si un juif vaut 30 égyptiens, il y a des conséquences à en tirer.
Revenir sur les reproches que vous portez de boycott à Israël. J'ai l'impression, en disant les titres, que ces reproches ne portent pas tant sur les individus, mais sur les formes de la société hébraïque elle-même. Il s'agit de l'idolâtrie, il s'agit de la débauche, des condamnations qui auraient pu être portées non seulement sur la société hébraïque, mais aussi sur toutes les sociétés antiques.
Oui. Première question. Ne semble se poser. C'est dans l'Israël qu'une faute est grave. Voilà ce que les prophètes veulent nous faire comprendre. Mais tout ce qu'ils ont condamné procède d'une récapitulation d'échelle des individus au niveau des formes sociales. Et c'est surtout Amos qu'il faut relire, le prophète Amos. Amos est très clair à ce sujet, il dit « Il y a une tentation permanente de la part de Dieu de changer Israël par un autre peuple, mais cela n'est pas possible. » Alors, pour résoudre cette difficulté, je crois que nous devons utiliser cette équation, enfin cette catégorie de la différence entre l'identité collective et l'identité individuelle. Je vais essayer de dire ceci. Un de mes amis qui est maintenant à Jérusalem, que vous avez certainement connu, puisqu'il a été le premier polytechnicien à faire ça à l'IA, et qui est Émile Moiti, que vous connaissez certainement, m'a dit une fois une chose extrêmement pertinente. Il m'a dit, au fond, il y a une différence absolue entre les Allemands et les Juifs. Et il a appris ça d'une phrase de Goethe. Goethe dit, paraît-il, je ne sais pas où, mais je fais confiance à Émile Moiti et aux germanisants, Goethe dit, les Allemands, quel peuple exceptionnel à l'échelle des individus, mais quel peuple épouvantable à l'échelle de la collectivité. Les Juifs, c'est exactement l'inverse. Hein. À l'échelle de la collectivité, c'est un peuple comme on n'en fera jamais. Ça, il a fallu les patriarches pour faire ça. Ben, c'est vraiment une réussite dont vous n'avez aucune idée. Lorsqu'on est dans l'autobus juif ou dans l'autobus goy, on voit la différence. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Bon, écoutez, faites l'expérience une fois, deux fois, trois fois, restez là. Mais imaginez, je ne sais pas moi, la sainteté d'un balayeur de rue ou d'un cireur à Jérusalem ou ailleurs, qui est capable d'entretenir avec vous une discussion de profondeur de sagesse dont on n'a aucune idée, parce que non seulement il a lu la Bible, mais il l'a apprise, et que c'est lui, c'est dans son sens, c'est son identité, c'est sa vie. Hein? C'est un monde très différent. À l'échelle collective, c'est effectivement exceptionnel. À l'échelle individuelle, il y a toutes les médiocrités possibles et imaginables. À l'échelle individuelle, les Juifs de la Gola ont ramené une quantité de défauts dont les Goïs n'ont aucune idée. ce sont les leurs. Si on a affaire à des juifs russes, alors tous les défauts des russes sont hypertrophiés chez les juifs russes. Si on a affaire à des juifs nord-africains, c'est Kedar Kebabada, etc. Bon, c'est vrai, à l'échelle individuelle, il y a toutes les médiocrités possibles. Et par conséquent, ça se récapitule au niveau des scandales qu'ont dénoncé les prophètes. Mais encore une fois, les scandales qu'ont dénoncé les prophètes, c'est les scandales de la tâche sur le tableau transfiguré de l'homme réussi. Ça n'a rien à voir avec les vilenies dont se rendent coupables les sociétés goyes. Là, c'est à un niveau tel que le prophète n'a même pas à parler, il n'a même pas à s'en occuper, ça va à la perdition. Voilà, je crois qu'il faut effectivement récupérer cette catégorie-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a une disposition de la loi et la punition de celui qui se rend coupable de l'idolâtrie qu'on appelle l'idolâtrie à Moloch. Vous savez, Moloch était une idole à qui on offrait les enfants en sacrifice chez les païens de l'Antiquité, c'est-à-dire, et on les brûlait entre les bras de la statue. Alors, la Torah prévoit que si quelqu'un en Israël se rend coupable d'une idolâtrie pareille, celui qui fait passer par le feu de ses enfants, mis à haut de sa postérité à l'idole Moloch, doit être puni de mort. Alors la Gemara pose la question suivante. Et si c'est pas que quelques-uns de ses enfants, si c'est tous ses enfants qui vont à Moloch, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait rien. Alors c'est très étonnant. C'est une perplexité étonnante. Voilà, s'il se rend coupable de brûler un ou deux de ses enfants, on le punit de mort. Mais si c'est tous ses enfants qui donnent à Moloch, on lui fait rien. Pourquoi? La réponse est très claire. Parce que la faute est à un niveau tel qu'il n'y a plus de récupération possible. Bon, qu'il vive sa vie, et après c'est fini. Vous voyez, il n'y a même pas de punition possible. Est-ce que c'est bien clair? Mais c'est ça. Lorsque les prophètes ont affaire avec la vision de l'histoire morale chez les Goïm, ils ne se mettent pas même pas en colère. Peut-on réclamer la moralité aux Goïm? Voilà à peu près si vous voulez la raison du silence. Sauf les Goïm qui ont eu rapport avec Israël, etc. Enfin, il y a quand même des exceptions. Mais Israël, ça c'est grave. Israël, c'est grave parce que c'est Israël. Ou si vous voulez, noblesse oblige. Mais alors, il faut réintégrer les choses à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien clair? Mais moi, ce qui me frappe, c'est la réussite du tri. Si ces 2000 ans d'exil ont été un tri des identités à l'échelle individuelle, alors ça réussit. Alors vraiment, ça réussit. Le rassemblement de ce peuple en tant que peuple en Israël, c'est véritablement un cas unique dans le monde de gens qui déjà à l'échelle individuelle ont comme réaction de conscience qu'il n'y a qu'une seule constitution possible si on nous laissait le temps de la faire, c'est la moralité elle-même. Et je crois que vraiment les prophéties sont en train de se réaliser, qu'il viendra un temps où toutes les nations diront, eh bien, essayons de voir la lumière qui vient de Jérusalem parce que c'est de là que vient la lumière. Et c'est en train d'être élaboré. Au niveau de la génétique, il y a un type d'homme qui se fabrique comme récapitulation d'humanité tout entière et qui a cet indice de réussite absolue, c'est vraiment l'Israël de la Bible, quelle que soit encore une fois son idéologie politique, c'est-à-dire les hommes pour qui il va de soi que la vérité morale, c'est la vérité morale. On ne fait pas aux Arabes ce que les Arabes feraient aux Juifs. Mais ça va de soi, c'est pas calcul politique. Ça va de soi, on ne peut pas. Etc.
On a quand même un peu l'impression que ça permet à la limite n'importe quelle casuistique. Parce que, au fond, ça justifie n'importe quel acte qui est fait dans un type de société. C'est les erreurs des individus. C'est au fond un peu ce que disait Crochet à propos de notre idéologie. Bon, le système stalinien, c'était les erreurs d'un individu, c'était les erreurs de Staline, ça ne mettait pas en cause le système en cause.
Si vous voulez, il y a d'ailleurs là une compétition de messianité, les Russes ont très sincèrement cru qu'ils étaient le peuple messianique, et par conséquent, potentiellement, on adopte des schémas analogues. Leur schéma n'est pas exactement le schéma Israël, mais ça ressemble à la... Je voudrais répondre quand même sur la question directement. De toute façon, la société d'Israël est en quelque sorte punie lorsque la récapitulation des erreurs, des fautes des individus mène à un niveau de saturation. C'est-à-dire, effectivement, non seulement Israël est le seul peuple qui est réprimandé et interpellé par les prophètes au nom de sa propre loi, mais c'est le seul peuple qui va en exil. Il est bien évident qu'à partir du moment où les fautes des individus se récapitulent dans une contamination au niveau social à un point irréversible, alors la société d'Israël éclate et les Juifs vont en exil. Bien sûr, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute que l'identité d'Israël est préservée en dépit de tout dans la mesure où Israël va en exil. Je m'explique d'une autre manière. Si nous avions affaire à une société à la manière des autres sociétés, eh bien la violation du contrat d'identité serait la fin pure et simple de la société d'Israël. Mais il y a cette soupape de l'exil par laquelle la Torah dévoile qu'effectivement, elle tient compte de cette différence entre l'échelle collective et l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, lorsque les fautes arrivent à un niveau de saturation irréversible, le temple est détruit, l'État est détruit, et tous les individus souffrent, mais à l'échelle collective, Israël est préservé dans la dimension de l'exil. Je crois effectivement que, pour répondre à votre question, il faut prendre le postulat qu'on ne parle que des gens de bonne foi. Le Talmud a déjà étudié ce problème. Celui qui dit « je fauterai et mon jour de Kippour à moi Israël me pardonnera », celui-là, on ne lui pardonne jamais. Vous comprenez? Il ne peut s'agir que des hommes de bonne foi. La loi s'adresse à des hommes de bonne foi. Et c'est pourquoi c'est si difficile, parce qu'à l'échelle collective, Israël est de bonne foi. À l'échelle individuelle, il peut y avoir tous les échecs possibles. À l'échelle individuelle, il y a toutes les maladies de la conscience possibles. Je reviens sur cette phrase que le Talmud dit, « Ha'omer ehetah ve'ashuv, el maspikim ve'yado la'asot shuvah ». Celui qui dit « Je fauterai et je ferai repentance vers Hachou », on ne l'aide pas à se repentir. Le pshat, ça veut dire « Je fauterai vers Hachou et je ferai tshuva ». Mais peut-être qu'il y a un pshat plus profond à Omer et Heta vers Hachou. Celui qui dira « Je fauterai et je recommencerai après Kippour », Hachou, ça veut dire « Je recommencerai ». Alors, « El maspikim ve'yado la'asot tshuva ». On ne l'aide pas à faire tshuva. Mais Maïmonide, dans les Hilchot tshuva, ajoute « Mais s'il fait tshuva, sa tshuva est une tshuva ». C'est-à-dire, le repentir est tellement difficile qu'il faut être aidé pour faire repentir. Parce que vraiment, comme le dit la Gemara et que c'est aussi Maïmonide, quand est-ce vraiment on s'est repenti? Lorsque celui qui sonde le cœur et les reins sait qu'on ne recommencera pas. Ça veut dire que dans une sincérité profonde de sa vie intérieure, on sait soi-même si on va recommencer ou pas. Alors ça, c'est le repentir vraiment. Mais pour en arriver là, il faut être aidé. Et en général, on est aidé par les malheurs. Parce que le repentir, c'est l'aveu. Et la chose la plus difficile à la conscience humaine, c'est d'avouer la faute qui a été faite. Mais il peut arriver que le jeu de la vie aide. Et c'est ce qu'on appelle souvent les dénisourines. Alors il y a des malheurs qui viennent. Et puis, de toute façon, les malheurs viennent compenser autre chose, toujours. Mais les malheurs sont tels que cela est insupportable et on préfère s'avouer sa faute de telle sorte que le remords de la conscience cesse, etc. Mais Maïmonide ajoute, et cependant, si quelqu'un qui était dans cette attitude de mauvaise foi, je fauterai et après je m'arrangerai le jour de Kippour et après je recommencerai et j'irai aussi à la synagogue le jour de Kippour l'année d'après, celui-là, on ne l'aide pas à faire tshuva, il s'entêtera dans son attitude de meshuva, d'entêtement, mais s'il arrive qu'il se repente, son repentir est accepté. Même celui-là, son repentir sera accepté. Voilà quel est le principe. La loi ne s'adresse qu'aux gens de bonne foi. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas n'importe quel peuple qui, comme peuple, peut accepter la loi de la moralité comme l'égalité. Dans les religions non-juives, ce sont des individus qui croient à un credo, qui se groupent en église. Bon, mais ce n'est pas du tout un peuple. Alors les chrétiens ont poussé la stratégie verbale jusqu'à parler du peuple chrétien. Mais il n'y a pas de peuple chrétien. Il y a des peuples goy et il y a la religion chrétienne. Tandis qu'en Israël, c'est tout à fait différent. Il y a un peuple d'Israël, et ce peuple d'Israël a ses propres lévites, a ses propres kohanim, a ses propres hassidim, a ses propres pieux, etc. etc. Dans les 12 tribus d'Israël, il y en avait 2 qui étaient consacrés à la Torah, et l'individu de l'autre tribu, c'était Lévi et Issachar, bon, Aseri et Kodesh, Aser et Nula, Jacob a promis à Dieu de consacrer le 10e 2 fois, 2 dixièmes, 2 tribus, et malgré tout, aux dernières élections, on a vu que quand même il y avait un peu plus que de 12e qui sont consacrés à la Torah. Par conséquent, tout va pas si mal que ça. On est arrivé à une performance peut-être supérieure à celui du temps de la sortie d'Égypte. J'en suis absolument persuadé. Le peuple d'Israël d'aujourd'hui est beaucoup plus Israël qu'il n'a jamais été, même au temps de Moïse.
Bien. Est-ce que je n'ai pas bien compris dans votre raisonnement en ce qui concerne la différence de moralité entre Goïm et Israël. D'une part, enfin, il semble y avoir une contradiction. D'une part, vous dites qu'il y a une différence, irréversible, immuable, entre la conception de la moralité en Israël, d'une part, moralité qui coïncide exactement avec la légalité, alors qu'au contraire, chez les goïms, la légalité reste toujours très loin de la moralité.
Bon. Ça, c'est
vous considérez,
clair.
Encore une fois, cette différence comme absolument
irréversible,
fatale.
Pas fatale,
disons irréversible. Et puis, deuxième affirmation que vous faites et qui me semble justement contradictoire avec cette première constatation, c'est que vous vous étonnez, à plusieurs reprises aujourd'hui en tout cas, vous vous étonnez que les goïms se conduisent de manière aussi immorale, aussi injuste, à l'égard précisément d'Israël, en particulier pour le problème israélo-arabe. Alors, je ne comprends pas parce que d'une part, vous dites que c'était possible, et d'autre part, vous vous étonnez comme si c'était possible qu'ils soient autrement, c'est-à-dire qu'ils soient moraux.
Bon, alors vous allez plus loin.
Il
semble y avoir
une contradiction, alors je ne comprends pas.
Non. Mais écoutez, ce qui m'étonne, c'est que ce jugement faussé. Il y avait deux étonnements. Je me suis surtout étonné du nombre de juifs qui tombent dans le piège. Hein? Mais ce qui m'étonne, c'est que ce jugement est fait au nom des valeurs morales qui sont reconnues comme étant venues d'Israël. Et qu'en général, ce jugement est fait par des chrétiens, ou par des disciples de chrétiens. Parce que je crois que finalement, les marxistes, au niveau de la morale, ne sont pas autre chose que les disciples de la culture chrétienne. Hein? C'est-à-dire que, de nouveau, il y a cette espèce d'erreur de jugement qui vient de ce que l'on juge un peuple à la manière dont on jugerait une utopie d'un ordre ou d'une église ou d'une... Et effectivement, je crois qu'il y a un travail de démystification à faire. Il faut qu'il y ait une contre-attaque de propagande pure et simple pour arriver à démystifier cette espèce de torsion de la conscience qui consiste à mentir en parlant chaque fois qu'un jugement est porté sur Israël. Je m'étonne de la complaisance qui s'attache à cela. Parce qu'il y a chez les nations suffisamment d'individus de bonne foi et suffisamment lucides au point de vue de l'intelligence et de la conscience morale pour savoir qu'on est en train de refaire le même crime que l'assassinat d'Israël il y a 2000 ans par les Romains. On est en train de préparer la même atmosphère. Par nos croyances, par nos traditions, nous savons que si nous sommes entrés dans le temps de fin des temps, eh bien Israël s'en sortira. Et c'est les goïms qui ne s'en sortiront pas. Mais à l'échelle des individus, quel est le prix qu'il faut payer? Qui survivra et qui ne survivra pas? Ça, nous ne savons pas. Et c'est dommage. Alors, est en train de se préparer une atmosphère d'attaque d'Israël, à peu près de la même manière que cet assassinat, que cette crucifixion d'Israël, que les Romains ont fait il y a 2 mois, et par les mêmes hommes. C'est ça, c'est la complaisance qui s'attache à cela qui m'étonne. Et surtout le fait que tellement de Juifs tombent dans le panneau.
Oui, mais justement. Vous dites qu'il faut démystifier. Bon, il faut démystifier parce qu'il y a suffisamment de ça, finalement, dans les nations pour que ce soit possible. Bon, moi, j'accepte cette proposition, mais comment concilier cette proposition que vous venez de faire, pour démystifier, avec ce que vous venez de dire,
alors,
justement,
l'irréversibilité,
la différence bon,
alors,
de moralité.
Je vais mettre les pieds dans le plat, par les carrés, si vous voulez. Moi, je ne m'attends pas du tout à ce que le Quai d'Orsay devienne moral. C'est la politique, et quel que soit le génie et l'authentique génie culturel français, ça nous fait de la peine de voir les Français tomber à un niveau d'immoralité politique pareil. Pas parce que c'en est indécent. Vous lisez ça dans la presse française, mais quand on lit ça dans la presse anglaise ou dans la presse israélienne, enfin, je veux dire, la position de la France, c'est d'une indécence telle que ça nous fait de la peine, nous qui sommes des hommes de culture française. C'est comme si la France était devenue une province de l'Empire arabe, déjà. Et j'en ai là, d'ailleurs. Bon. Eh bien, au niveau politique, j'en ai là. Enfin, je schématise énormément. Mais que les représentants de la conscience française, non pas du gouvernement ou de la politique française, mais de la conscience française en tant que telle, et je pense surtout aux églises, tombe dans ce piège et ne dénonce pas cette espèce de mensonge énorme. C'est assez étonnant. Parce que si au bout de 2000 ans d'éducation chrétienne et occidentale en général, tant que les philosophes athées, qui sont des sages de l'Occident, que pour les prêtres chrétiens, on n'arrive pas à ce courage moral élémentaire qui consiste à dire « assez de dire des mensonges », c'est dangereux pour Israël, parce qu'Israël est une minorité humaine qui a le monde entier contre lui, et à la plus petite inadvertance de l'opinion politique, risque de déclencher un massacre qui angoisse Maurice Clavel, par exemple, mais il est le seul, et que ce soit aussi rare en France une réaction pareille, c'est assez inquiétant. Alors, je reviens à la définition de tout à l'heure. Nous avons là la démonstration de ce que l'identité nationale des Goïm et l'identité de Rechaïm, et c'est irréversible. En tant qu'État français, l'État français est Rachar. En tant qu'État allemand, l'État allemand est Rachar. Tous, il n'y a pas d'exception. Mais à l'échelle des individus, c'est récupérable. N'importe quel Français peut devenir Israël. Parce qu'il s'agira d'un Israël de culture française. Mais comme nous avons été.
Une nation, c'est déjà, il ne s'agit pas de la politique de l'individu.
Mais nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, c'est l'analyse que je suis en train de vous faire. Il n'y a que dans la mesure où les États, par le biais de leurs idéologies philosophiques ou religieuses, reconnaîtront qu'Israël est le centre de la moralité dans le monde. Eh bien, à ce moment-là, il y a peut-être un risque que ça s'arrange. Mais c'est pas du tout le cas. Enfin, je vais essayer de vous décrire la situation actuellement. En Israël, depuis quelques semaines, tout le monde est très tendu, parce qu'on se retrouve dans une situation assez analogue à celle qu'il y avait avant la guerre de juin, mais avec comme clause aggravante ce mensonge universel contre Israël, qui consiste à parler des Israéliens comme on parlait des nazis, et ça passe, et ça marche. Mais on perçoit que les hommes à l'extérieur d'Israël, enfin les juifs en partie de l'Israël, sont eux dans une position beaucoup plus angoissée, qu'ils sont à la fois pessimistes, défaitistes, etc. Alors il y a là probablement une réaction psychologique à opérer, mais cette espèce de sentiment d'isolement, juif y compris, juif de la diaspora y compris, est perçu de façon très aiguë. Alors on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer, mais nous allons lentement, vous souvenez ces dernières années, je vous disais qu'il y a dans l'enseignement des prophètes une alternative. L'eschatologie arrive, alors ou bien elle est catastrophique, ou bien elle est transfigurante. Il semble que nous allons lentement vers une eschatologie catastrophique. À part conséquent, il est urgent d'aller se mettre à l'abri. Vous savez, quand il y a un maelstrom, c'est au centre du maelstrom qu'il ne se passe rien. Et quand on jette une grenade, c'est celui qui est sous la grenade. J'ai appris ça à la guerre. Donc, il faut se mettre sous la grenade pour ne pas être blessé. Alors si Israël va être attaqué par le monde entier, c'est en Israël qu'on sera à l'abri. Et ça vous a l'air paradoxal, mais je cite.
Aujourd'hui, on en arrive à un processus pareil contre Israël de la part d'un peuple qui est la France. Autrement dit, si je veux aller plus loin, le phénomène qui est aujourd'hui pris par la France est un phénomène de stupidité, de bêtise et l'essence même d'une race.
Non, voilà. Écoutez, je crois que finalement, l'explication concrète, c'est les intérêts politiques. Il est bien évident que si nous étions nous-mêmes responsables des intérêts politiques de la France, eh bien, ou nous démissionnerions de cette responsabilité, ou nous serions du côté des Arabes, parce que le pétrole est chez les Arabes. Hein? Ça va peut-être changer, on a trouvé dans le Sinaï. Mais je ne sais pas si on aura suffisamment de temps de produire suffisamment de pétrole pour. Et puis c'est pas souhaitable. Il vaut mieux que nous soyons dans la position d'attaquer, de poursuivi, comme dit le Midrash, et pur au niveau de la moralité. Enfin, récupérer l'amitié française en la vendant du pétrole à bas prix, ce serait peut-être pas la stratégie la plus souhaitable. Donc, il est évident que c'est évident. Enfin, si les Arabes menacent de retirer leur dollars des banques françaises, il y a une catastrophe financière en France, en Angleterre aussi, etc., etc. Ça, on peut comprendre. Mais c'est l'atmosphère qui accompagne cette stratégie politique qui est douloureuse. Cette atmosphère est une atmosphère d'empoisonnement moral. Et je crois que c'est finalement le résultat de cette éducation de type évangélique qui a séparé la morale de la politique. On s'est habitué à ce que la politique ne doit pas tenir compte de la morale, alors quand le seul cas est arrivé, où pour Israël en particulier, il fallait en tenir compte, alors on a continué, comme si Israël était n'importe quelle Belgique, ou n'importe quelle Hollande, ou n'importe quelle Suisse. Alors c'est pas du tout ça. Les Français, surtout en tant que chrétiens, savent qu'Israël est le cœur du monde. Ils le savent, ils y croient, puisqu'ils adorent l'effigie d'Israël. La base de la foi chrétienne, c'est que si Dieu se révèle, c'est à travers Israël. C'est ça qu'ils croient. Et ils en ont fait même une idolâtrie, tellement ils y croient. D'accord ? Et cependant, lorsque les problèmes concrets se posent, alors ils continuent sur la lancée de leur éducation de Goy. Leur éducation de Goy, c'est la morale et la politique, rien à voir. Ah, on peut effectivement envoyer des messages de sympathie, mais est-ce que vous croyez qu'une forteresse peut tenir le coup avec des messages de sympathie ? C'est pas possible. Eh bien, il va sûrement se passer quelque chose, parce que la situation actuelle, qui est que chaque jour, dans les journaux ou à la radio, on entend qu'un tel est mort et que deux ou trois sont blessés, pour une société comme Israël, cela n'est pas supportable. Donc il va se passer quelque chose, c'est évident. Mais l'atmosphère qui a accompagné cela chez les Goïms est une atmosphère. Nous en avons avec la France, mais avec les Américains, c'est la même chose. Eux aussi, hein, quand ça les arrange, alors la morale ressemble à la politique. Quand ça ne les arrange pas, ils reprennent leur bille. D'accord ? Alors, vous voyez, finalement, bon. Alors, le bilan s'est fait. Il y a bien Israël d'un côté, Am Levada Dishkon. Israël tout seul d'un côté et le monde entier de l'autre. Mais il ne faut pas que les Juifs tombent dans ce panneau. Et je crois, personnellement, que la seule thérapeutique à cela, c'est de partir. Je pense surtout aux gosses et aux jeunes de lycée, par exemple, qui sont complètement intoxiqués par cette espèce de propagande et par le reste. Voilà. C'est criminel de les laisser vivre ici. Il faut les envoyer là-bas. Et comme je vous dis souvent, il y a suffisamment de lycées et d'universités pour leur donner une éducation qui les mènera à être aussi ingénieurs, techniciens, tout ce que vous voulez, et même juste de surcroît. Je crois que c'est pas possible autrement. Laisser les Juifs dans la problématique de la galoute, et ici par exemple dans la problématique française, c'est les condamner à se faire intoxiquer. Alors le temps du tri est arrivé. Le temps du tri est arrivé, il faut faire le sauvetage à l'échelle individuelle. Je vous garantis que je n'ai pas été chargé par la Sainte-Loupe de vous dire ce que je vous dis là. Mais je crois que nous sommes occupés à un combat contre les moulins à vent et nous laissons des plumes. Les plumes, c'est nos enfants, et c'est dommage. Et ils ont tenu le coup, grâce à leurs grands-parents, à travers 2000 ans d'exil. Et puis, quand au moment où les choses arrivent, où c'est le jugement de la fin des temps qui arrive, alors ils sont perdus. C'est dommage. Maintenant, de notre côté, peut-être qu'il faut laisser les choses se faire. Peut-être qu'il faut effectivement que le tri se fasse et que ne reviennent en Israël que ceux qui ne seraient pas des chevaux de Troie.
C'est comment, d'une part, il voudrait l'avoir accepté, sa carte d'identité, la loi est venue. Et d'autre part, comment il a défend d'Israël, qu'il se repente ou non, et qu'il réalise son destin. Alors au fond, si ça dépend vraiment de lui, ça peut très bien ne pas arriver, et ce n'est pas fatal.
Bien, alors vous reposez la même question et vous posez la même réponse. À l'échelle collective, ça ne dépend pas d'Israël. À l'échelle collective, Israël est Israël, qu'il ne le veuille pas. Et Israël, ça veut dire l'homme de la loi morale ou rien. C'est bien clair. Maintenant, à l'échelle des individus, ça dépend des individus, d'être les membres de cet Israël. La promesse des prophètes est très claire. Il y aura jusqu'à la fin des temps un peuple qui est Israël et c'est lui qui triomphera de l'histoire du monde, de cette histoire gigantesque qui commence au premier homme et qui a pour objectif de faire naître un homme réussi. C'est un Israël qui arrivera vainqueur au bout de la nuit. Maintenant, à l'échelle individuelle, qui sera d'Israël ou pas, ça dépend des individus. Je crois que c'est très clair comme cela. Il faut effectivement s'y habituer, nous avons mis tous des années pour arriver à comprendre cela. Il y a une manière d'être homme, qui est la sainteté incarnée, c'est le peuple d'Israël. Les individus en Israël peuvent être tous les gangsters que vous voudrez. Il y en a très peu d'ailleurs. Mais à l'échelle individuelle, c'est possible. Toutes les névroses sont possibles. Mais à l'échelle collective, c'est irréversible. Alors, quel est le sort des individus des nations ? Eh bien, comme nous disions hier soir, soit s'inspirer d'Israël pour une morale noachique qui serait adaptée à la culture de telle ou telle nation, et ça n'a jamais réussi, hein ? Soit rejoindre Israël. Et je suis très impressionné du petit nombre de goïms qui rejoignent Israël. Ça prouve que vraiment nous sommes en plein dans le temps messianique. C'est-à-dire, il s'agit de l'identité juive elle-même qui doit se réaliser, et lorsqu'elle aura réussi de façon spectaculaire, alors nous verrons l'afflux, comme disent les prophètes, l'afflux de tous ces hommes et toutes ces femmes qui diront « Bon, ça se passe là-bas, on vient vous rejoindre. » Et le tri, c'est que, corollairement, hélas, énormément de Juifs diront « J'en suis pas. » On les retrouvera en Jordanie, prisonniers de guerre.
Et ensuite, est-ce que vous venez de dire, que pensez-vous de l'appel lancé par Mme Dominique Aubier? Elle ne rejoint pas Israël, mais elle demande à Israël d'aider.
Écoutez, je n'ai pas lu, je connais personnellement Mme Aubier, mais depuis que je suis là-bas, je ne suis pas au courant de la littérature contemporaine. C'est récent.
Le cas juif, le dernier.
Oui, je n'ai pas encore lu, mais enfin, je le lirai. Je veux dire d'ailleurs qu'elle a été invitée par nous à Jérusalem à faire une conférence qui aura lieu le 22 décembre, alors c'est pas très loin. Mais si j'ai bien compris ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle est une de ces chassidés au Mataolam, si vous voulez, qui a perçu que le salut passe par Israël, il faut sauver le monde, et par conséquent qu'il faut que Israël, d'urgence, donne aux cultures universelles les moyens de s'épurer, les moyens de se purifier. Eh bien, je crois que nous sommes dans un stade où nous avons autre chose à faire. Enfin, effectivement, je vois mal comment s'occuper des goyim alors qu'il faut d'abord sauver la maison. Hein. C'est un problème. Je pense personnellement que Dominique Aubier ne se convertira pas au judaïsme dans les temps qui viennent. Ça finira par lui arriver, mais dans les temps qui viennent. Mais au fond, ça serait beaucoup plus efficace hein, que des goyim de cette qualité, de ce calibre, aille jusqu'au bout de leur sincérité. Si vraiment, c'est le cas de Jethro, hein, si vraiment il y a la Torah quelque part et qu'on comprend ce que c'est que la Torah, alors on va rejoindre ceux qui s'occupent de la Torah. Bien, et, est-ce qu'il y a aussi le pasteur du Vernois, et ça me gêne beaucoup de parler de gens que je connais, qui est un homme absolument charmant, sympathique, sincère, etc. Et il s'agit effectivement d'un pasteur protestant qui est marié avec une juive. Qui pratiquement oblige sa femme à pratiquer les mitzvot, lui restant chrétien, quoi. Et il est israélien d'ailleurs, et justement il continue à être occupé à ce rêve du noachisme à la manière de Ben Amozeg, c'est-à-dire de porter témoignage de ce qu'effectivement les goyim doivent être greffés sur Israël tout en restant goyim. Mais je crois que c'est une utopie. Du Vernois serait certainement beaucoup plus efficace devenu juif en Israël. Mais je comprends la difficulté d'aller jusqu'au bout du chemin. Imaginez, c'est énorme pour un pasteur de se dire, bon, on s'est trompé pendant tout le temps du christianisme, c'est vraiment Israël qui est ce que nous croyons être le Christ, à la manière des chrétiens. C'est Israël qui est cela, il faut d'urgence rejoindre Israël. Le temps de la rédemption est arrivé, le temps des nations s'est terminé, l'église des nations s'est finie. Pour un pasteur protestant, croyant dans le christianisme, arrivé jusque-là, c'est déjà énorme. Il reste un tout petit pas à faire. Et ceci dit, devient Israël. C'est encore très dur. Hein? Mais pourtant, sa sincérité est absolument intacte. Je crois qu'il y a là l'achèvement d'un héroïsme qui est encore à faire. Et je dois vous dire que, finalement, son Église le rejette. Hein? Son Église n'est pas encore au stade de pouvoir écouter cela que le véritable sauveur du monde, c'est pas l'idole qu'ils adorent, c'est Israël, l'État juif. Pour arriver à faire ce lien, eh bien, il faut un héroïsme auquel peut-être les chrétiens ne sont pas encore préparés, mais je crois que ça devient du devoir des juifs de commencer à leur faire comprendre, et on va s'en occuper. Je vais vous donner un petit exemple de ce qui est arrivé à Jérusalem il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez le centre Richelieu, je suppose. Hein? Et le centre Richelieu a organisé un pèlerinage où il y avait près de 200 intellectuels catholiques, avec énormément de prêtres aussi, un pèlerinage en Israël, retour au lieu saint, retour aux sources, etc., à la manière chrétienne. Et finalement, ils ont organisé des séances d'études de la découverte du judaïsme, dont une à laquelle j'étais invité s'est passée dans le couvent de Notre-Dame de Sion, en pleine vieille ville. Donc, ils étaient chez eux, chez nous. Et ils m'ont invité à faire une causerie à ce sujet. Alors, je leur ai parlé exactement comme je vous parle, imaginez l'atmosphère de la salle. Ensuite de quoi, un des prêtres est venu me voir et m'a dit comme ça, tout à trac, m'a dit, écoutez, monsieur Askenazy, après ce que j'ai entendu, je ne vois pas le moyen de rester chrétienne. Comment faut-il faire pour devenir un prêtre? Et alors, bon, alors, je ne vous dirai pas les secrets qu'on s'est dit. Une des choses m'a beaucoup frappé, m'a dit, écoutez, ce qui nous a frappé à tous dans ce voyage que nous avons fait en Israël, c'est de trouver un peuple vivant qui incarne l'idée messianique, vous êtes tous des messies, il nous dit, alors que nous, on était à la recherche de pierres, de traces, de souvenirs d'il y a 2000 ans, alors que lorsqu'on se balade sur le port, qu'on parle avec un docker, on lui demande qu'est-ce qu'il fait là, dans son langage, il nous explique, je sauve le monde, et puis on entend un professeur, c'est la même chose, on voit un soldat, c'est la même chose, c'est un peuple qui est en train de fabriquer l'identité messianique, et nous, les chrétiens, nous sommes à la recherche de traces sur des pierres. Alors, bon, vous voyez à peu près l'état des choses. Mais je crois que c'est peut-être par là que se désamorcera cette hostilité vis-à-vis d'Israël.
Ouais. Vous ne pensez pas que la phase dans laquelle nous allons entrer maintenant est une phase très délicate, dans ce sens que faire remarquer, en gros, très schématiquement, à quelqu'un qui a cru, qui a basé sa foi pendant des millénaires sur quelque chose qu'il croit vrai, lui faire remarquer que c'est faux, vous ne croyez pas que ça peut déboucher sur le désespoir et donc le manque de contrôle de la réaction à l'égard de ceux qui lui apporteraient cette vérité?
Oui, c'est pourquoi je crois qu'il y a toute une stratégie pédagogique à adopter. Vous savez, je vous dirai une chose, m'obliger à aller plus loin dans le problème. Au fond, les juifs ne comprennent pas ce qu'est le christianisme. Ils sont incapables de le comprendre par définition. Vous comprenez pourquoi? Ils sont incapables de communier avec l'expérience religieuse chrétienne. Non, je vous dis les choses très schématiquement, mais il en est ainsi. Je connais très peu de juifs, ça ne se compte pas sur les phalanges, sur les doigts d'une main, qui soient capables de comprendre la théologie chrétienne. Il y a là une expérience religieuse spécifique qui n'est pas la nôtre, mais qui a une cohérence en soi. L'étonnement, c'est lorsque nous nous apercevons que cette religion qui n'est pas la nôtre est greffée sur l'identité d'Israël, d'où le conflit. Hein? Bon, moi pour ma part, comment vous dire les choses? Enfin, d'autre part, je suis aussi théologien. C'est-à-dire que, dans la mesure de mes moyens, je suis capable de comprendre ce genre de religion. Par conséquent, si j'ai affaire à un dialogue avec un chrétien, bien entendu, je peux pénétrer à l'intérieur de sa foi et lui faire comprendre qu'il ne perdra rien de ce en quoi il croit. Au contraire, lorsqu'il deviendra juif. Vous voyez l'humour de la chose. Puisque pendant 2000 ans, c'était l'inverse qu'il nous racontait. Hein, qu'un juif devenu chrétien se réaliserait vraiment en tant que juif. Mais nous sommes maintenant dans le stade inverse. Hein. Effectivement, il risquerait le désespoir, et non seulement le désespoir, mais l'anarchie intérieure, à moins qu'il n'arrive de comprendre vraiment en quoi il croyait, et que ce en quoi il croyait, sous forme mythique, c'était que c'est Israël qui est le médiateur du salut. C'est en cela qu'ils ont cru. Et s'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent préserver toute leur ferveur religieuse en la dépaganisant et en devenant membre d'Israël, ou si vous voulez, ou disciple d'Israël, ils réachèvent à la manière d'Israël, alors ils seront sauvés, alors ils seront transfigurés, parce qu'ils portent un problème intérieur. Ils ont découvert dans notre temps qu'ils étaient les assassins du Seigneur. C'était eux les assassins du Seigneur, le Seigneur étant Israël. Et par conséquent, il faut que nous les aidions à sortir de cette contradiction. Ils se découvrent criminels en découvrant notre existence. Et pourtant, ils savent que le salut ne passe que par les catégories de la foi telles qu'ils les ont expérimentées. Alors il faut très simplement arriver à leur faire comprendre que ces choses en lesquelles ils croient, qu'il y a quelque part une identité humaine qui est aussi divine et qui sauve le monde, c'est Israël. Seulement nous, on ne se prend pas au sérieux, on ne se met pas en effigie. Ils ont réagi il y a 2000 ans comme des païens qui ont idolâtré l'objet de leur croyance. Mais l'objet de leur croyance, c'était la médiation par Israël. Alors, on leur fera visiter les yeshivot, on leur fera visiter la vie quotidienne, et on leur montrera, voilà en quoi vous croyez, c'est arrivé, le Messie a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. Mais c'est nous, un peuple, et non pas un mythe. Est-ce que c'est bien clair?
C'est très bien.
Non, parce que, encore une fois, il y a une différence à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. C'est toujours le même projet.
Imaginez, disons, dans vos journées intimistes, de ce que vous appelez
le problème. Écoutez, je vais vous dire, vous me posez une question qui est une réponse simple. Ou un préalable politique. On peut poser ce problème des réfugiés palestiniens, ou en général, de ce qu'on appelle le peuple palestinien, qui est d'ailleurs une fiction politique. Ce sont des Arabes occupant une province qu'ils ont pris aux Turcs. Lesquels Turcs avaient pris des Byzantins, qu'ils avaient pris des Romains, qu'ils avaient pris des Juifs. Eh bien, ne tombez pas dans le panneau. Mais enfin, je reviens au problème. C'est qu'il y a un préalable politique. Ou bien il est entendu que ce pays qui s'appelle Israël est le pays du peuple juif, alors nous avons un problème avec les occupants de ce pays qu'il faut bien caser quelque part. De deux choses l'une. Ou bien ils acceptent, la Torah l'avait prévu. Ou bien ça nous est d'autant plus facilité que grâce à Dieu, les musulmans ne sont pas idolâtres. Si ça avait été les Palestiniens chrétiens, nous serions très embêtés. Parce que du point de vue de la légalité juive, il s'agirait d'une population idolâtre, et par conséquent, il faudrait appliquer la législation de la ville. Et elle n'est pas tendre pour les idolâtres. Mais ceci dit, les musulmans n'ont rien à craindre, parce qu'ils sont musulmans. Regardez le mérite de notre père Abraham jusqu'où il va. Bien, deux choses d'une. Ou ils acceptent d'être israéliens, tout en gardant leur identité culturelle et leur religion, et par conséquent soumis aux lois israéliennes dans un État d'Israël, et ils n'ont rien à faire, mais tout à gagner. Ou bien, pour des raisons parfois nobles d'ailleurs, ils considèrent que c'est impossible, qu'ils ne peuvent pas habiter à l'étranger, en galoute, ils seraient comme les Juifs français en France, inévitablement on se sent déchiré dans son identité profonde, ou bien on tient le coup et on habite l'Alsace, Paris ou tout ce que vous voudrez dans un ghetto, ou bien on tient pas le coup, on rentre chez soi, alors ils décideraient de rentrer chez eux. C'est deux choses l'une, ou ils peuvent habiter chez nous, et je vous assure que nos Juifs ne seront pas traités comme des Juifs des Goïms. Hein? Donc ou bien ils habitent chez nous et vont au travail, ou bien ils s'en vont. Il n'y a pas d'autre solution. Ils s'en vont où ? Chez eux, en Arabie.
Mais parce qu'avec plus de détails, vous considérez par exemple Ramallah ou Hebron comme chez nous.
Mais évidemment, écoutez, est-ce que vous croyez que Tel Aviv est plus ou moins chez nous que Shrem ou que Hebron ? Quel droit de, à ce niveau-là, si nous discutons de nos droits sur ce pays, quel droit de plus nous avons à Tel Aviv qu'à Hebron ? Qu'à Tel Aviv, nous avons fait une ville juive, mais comme dans Hebron, on a aussi une ville. Comprenez bien, nos droits à la possession de ce pays, ce sont les droits du peuple d'Israël tel qu'en parle la Bible. Autrement, nous n'avons aucun droit, hein, pas plus à Shem qu'à Tel Aviv ou à Jaffa.
Écoutez, en faisant la guerre de 6 jours, je le répète, en faisant la guerre de 6 jours, le but n'est pas de couper.
C'est sûr.
Donc, écoutez, dire que...
j'ai compris ce que vous voulez dire. Le peuple juif, et d'ailleurs la Torah lui interdit, n'est pas du tout expansionniste. Avant de faire une guerre de conquête, fût-ce la conquête de son propre pays, il faut demander l'avis d'un Sanhédrin. Vous comprenez ? Nous pourrons d'ailleurs reparler de ces choses-là. Vous avez très absolument raison de dire, Israël a été attaqué. Ne rêvez pas au Shtachim, enfin au territoire, ne rêvez pas à Jérusalem, il ne rêvait pas à tout ça. Simplement, il essayait de survivre. Et puis, comme il s'agit d'Israël, alors nous, les croyants, nous disons Dieu, les non-croyants disent l'armée israélienne, et pour nous, c'est la même chose, pour le Réa Sévaroth, vous avez un peu plus de notre pays. Il en manque encore, d'ailleurs. Mais, dans le fond des choses, les événements ont fait que ces Juifs, revenus de la Golan depuis le siècle dernier, sont rentrés chez eux, et il s'agit du retour, des retrouvailles entre un peuple et sa terre. Peu importe les péripéties d'une guerre que les Arabes nous ont imposée, il arrive que, jusqu'au Jourdain, Israël est Israël. Et alors, tant dans l'ancien Israël d'avant la guerre de juin que maintenant, il y a des Arabes chez nous. Il y a des Arabes chez nous, il faut donc résoudre leurs problèmes. Et alors, j'ai l'impression, vous savez, immédiatement après la guerre de 6 jours, vous vous en souvenez alors, et les Israéliens étaient affolés, ils disaient, mais qu'on fait de tout ça ? Vite, à qui les rendre ? Vite, à qui rendre tout ça ? Donnez-nous la paix. Vous vous rappelez de cela ? Donnez-nous la paix, et puis ouf, on vous donne tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Un petit peuple héritant d'une masse d'hommes et d'un territoire énorme, économie à portée à bout de bras, etc., etc., c'était pesant. Les Arabes se sont arrangés avec l'aide des Français, d'ailleurs, en particulier. Pas parce que si la France avait réagi autrement qu'elle a réagi, les solutions auraient été beaucoup plus simples. Les Arabes se sont arrangés, dans l'entêtement qui leur est caractéristique, à rendre toute solution impossible. Maintenant, ne faites pas d'illusions. Les frontières physiques de la sécurité israélienne sont les lignes du cessez-le-feu. Et il n'y aura d'aménagement de territoire en vue d'une des quelconques formules auxquelles on pense que s'il y a la paix vraiment. Mais ne faites pas d'illusions, les Arabes ne veulent pas la paix vraiment. Et d'ailleurs pas non plus les grandes puissances. Par conséquent, le problème se récapitule de la manière suivante. Nous n'avons pas conquis notre pays, il nous a été donné par une espèce de stratégie. Que faut-il faire maintenant de l'entité palestinienne? L'opinion publique est telle qu'on ne peut pas proposer une solution quelconque qui ressemblerait à un protectorat. Le monde entier refusera, les Arabes y compris. Or, c'est la seule solution possible. Il y a des minorités très importantes dans l'Israël actuel, et bien ça ne peut être une sorte de protectorat de la part d'un État israélien. L'opinion publique refusera. Bon, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais l'équation est très claire. Ou bien les Juifs partent d'Israël et ils partiront pas, ou bien les Arabes partent d'Israël et ils partiront. Finalement, il y a des...
Je pourrais être plus explicite. Par exemple, l'appel du rabbin Sibylle il y a quelques mois, en disant que c'est Dieu qui nous a permis de conquérir le territoire occupé, donc personne n'a le droit de les rendre, c'est la connerie.
Écoutez, ça c'est bien dans la bouche d'un rabbin, c'est une façon de parler. Ça veut dire que finalement, ça se réfère à la manière dont nous formulons ce que nous disons.